Samuel Vergès est docteur en physiologie. Son expertise est centrée sur les facteurs limitant la performance à l'exercice chez le malade et chez le sujet sain. Sur les réponses à l'hypoxie, ainsi que sur l'utilisation de l'entraînement à l'effort comme intervention thérapeutique. Samuel est aussi un ancien biathlète de haut niveau. Cet amoureux des montagnes pratique aujourd'hui le ski de fond et le trail notamment sur des longues distances. Il sera l'un de nos experts en physiologie, pour l'instant outdoor.
Salut Samuel, comment vas-tu ?
Bonjour François, ça va ? Merci de m'accueillir.
Mais bah avec grand plaisir, j'espère qu'il fait beau à Grenoble. En Bretagne, c'est un temps breton.
Très bien, nous c'est un temps trop chaud.
Bon, et bah écoute, on vit dans deux endroits de la France très différents. Pourtant, on est tous les deux des êtres humains. Et quand on pratique un sport d'endurance, l'être humain, il y a des choses qui se passent dans son corps. Alors, en fonction de la vitesse à laquelle on va courir et de la façon dont on va courir, il va se passer différentes choses. On entend beaucoup parler de VMA, de travail au seuil, de travail à fréquence cardiaque, à diverses fréquences cardiaques, etc. Seuil 1, seuil 2. Bref, on entend beaucoup de termes comme ça. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on court ?
Alors, en particulier quand on court ou quand on pédale longtemps, notre organisme, nous les êtres humains, on est des êtres humains qui, pour produire l'énergie dont nos cellules ont besoin, on est très dépendant de l'oxygène. On dit, avec des mots un peu scientifiques, qu'on est des êtres aérobies, c'est-à-dire qu'on dépend de l'oxygène pour produire l'énergie dont on a besoin. Alors, l'énergie dont on a besoin pour nos cellules, c'est pour recycler nos cellules, faire marcher notre cœur, notre cerveau, etc. Et puis, quand on fait du sport, on a besoin d'énergie pour nos muscles qui vont pousser, nos quadriceps, etc. Et donc, pour toute cette énergie nécessaire à notre organisme, on a besoin d'oxygène, d'une part, et puis de ce que l'on appelle des substrats énergétiques, c'est-à-dire des glucides, des sucres donc, et des lipides, des graisses, qui donc associés à de l'oxygène vont, par un certain nombre de réactions chimiques, donner de l'énergie, en particulier à nos muscles. Donc il nous faut de l'oxygène et il nous faut des substrats énergétiques. Voilà. Et quand on va faire de longs efforts, quand on va faire des efforts d'endurance qui vont durer longtemps, eh bien on va avoir besoin de beaucoup d'oxygène et de beaucoup de substrats énergétiques parce qu'on va consommer beaucoup d'énergie au total au niveau des musculaires pour réaliser 200 bornes en vélo, pour courir 40-80 km. Donc, tout la contrainte, ce que l'on appelle la bioénergétique, c'est-à-dire comment, d'un point de vue biologique, on apporte l'énergie, on produit l'énergie nécessaire à réaliser un effort d'endurance, par exemple, la bioénergétique, donc, eh bien, la contrainte des contraintes bioénergétiques des sports d'endurance, c'est de pouvoir produire une quantité d'énergie importante durant une longue durée. Alors on a besoin d'une quantité d'énergie importante pour pédaler 200 km en vélo, mais c'est pas non plus la quantité d'énergie sur 30 secondes pour courir 200 km. Sur ces 30 secondes, c'est pas la quantité d'énergie qu'on a besoin pour réaliser un sprint, parce qu'on fait pas 200 km en sprint. Donc on n'a pas besoin d'un débit de production d'énergie énorme au niveau des muscles, parce que les muscles ils sont pas à fond, on n'est pas en sprint. Par contre, ils travaillent en continu pendant 200 km en vélo, pendant 40 km. Donc, ils vont avoir besoin d'énergie en continu de façon importante, mais en continu sur plusieurs heures. Et c'est ça qui va faire une grosse quantité d'énergie. Donc, on va consommer beaucoup d'oxygène pour produire toute cette énergie et on va consommer beaucoup de glucides et de lipides pour produire toute cette énergie. Donc, du coup, vous voyez cette histoire d'oxygène. Souvent, dans le domaine de l'endurance, on entend parler de consommation d'oxygène, de VO2, de consommation maximale d'oxygène. On entend parler de vitesse maximum aérobie. Donc, tous ces termes-là, ils se réfèrent en fait à notre capacité maximale que l'on a à donner de l'oxygène aux muscles, à utiliser cet oxygène au niveau des muscles pour produire de l'énergie. Et plus on va produire de l'énergie avec cet oxygène et les sucres et les lipides qui seront là, plus on va produire d'énergie. Alors, cette énergie, pour utiliser un autre mot scientifique, elle se caractérise par ce qu'on appelle l'ATP, c'est la monnaie énergétique de notre organisme, de nos muscles, l'ATP, l'adénosine triphosphate. Disons que c'est une monnaie énergétique qui est donnée par des réactions chimiques qui se font avec l'oxygène et les sucres et les graisses. Ces réactions chimiques vont donner de l'ATP au muscle, et là, le muscle il va pouvoir pousser sur les pédales ou appuyer sur les baskets. Et donc, pour réaliser un effort de longue durée, il va falloir en permanence produire de l'ATP, produire de l'ATP, produire de l'ATP à partir d'oxygène et de substrats énergétiques. Donc il va falloir être capable d'amener de l'oxygène aux muscles, il va falloir être capable d'amener des substrats énergétiques aux muscles pour que cette production d'énergie dans des usines à énergie que l'on appelle les mitochondries dans nos muscles, elle puisse avoir lieu en continu. Et donc, ce qui va être important, c'est d'être capable d'extraire de l'oxygène, parce que l'oxygène, on va le trouver où? On n'en a pas du tout en réserve dans l'organisme, l'oxygène. Donc, en continu, il va falloir prendre de l'oxygène de l'air ambiant et l'amener vers les muscles et nos mitochondries pour pouvoir réaliser ces réactions chimiques qui vont produire l'énergie. Et puis, ces sucres, ces graisses, on en a plus ou moins en réserve dans l'organisme, mais au bout d'un moment, lorsqu'on va faire de l'endurance, l'ultra-endurance, on ne va plus en avoir assez. Donc, il va falloir être capable, en même temps qu'on réalise un effort, il va falloir être capable d'absorber des substrats énergétiques, donc s'alimenter, pour pouvoir apporter des glucides et des lipides supplémentaires à ceux que l'on a en stock dans notre organisme. Donc on commence à se rapprocher de ce qui va être un peu un défi pour l'organisme, ça va être d'être capable en permanence à apporter de l'oxygène, de l'air ambiant jusqu'aux muscles, ça veut dire via les poumons, via le sang et le cœur, donc il va devoir faire circuler au maximum ce sang oxygéné vers les muscles, être capable de le réoxygéner en retour, d'évacuer le CO2, donc il va y avoir tout un système d'échange cardio-respiratoire autour de la consommation et de l'apport en oxygène qui va être clé. Et puis, il va falloir aussi être capable de s'alimenter, d'utiliser à bon escient les glucides, les lipides pendant de longues heures éventuellement. Donc, c'est en ça qu'il va y avoir deux grands critères qui vont permettre de caractériser le fait qu'on va être plus capable, plus ou moins capable de réaliser un effort en endurance. L'endurance, donc, comme je l'ai dit au début, on ne va pas être sur un effort de plusieurs heures, on ne va pas être au maximum de nos capacités, on ne va pas être à fond, parce que si on part en sprint, on va courir quelques secondes, quelques dizaines de secondes, donc, et on va s'arrêter. Donc, on va partir à une vitesse qui est sous-maximale. Donc, l'endurance, ça se définit par une intensité d'effort sous-maximale, mais maintenue très longtemps. Et donc ça veut dire quoi? Sous-maximale, ça veut dire que ce qui va être clé, ça va être qu'est-ce que notre max? Donc, si ma vitesse maximum que je peux courir sur quelques minutes, elle est de 12 km/h ou si elle est de 20 km/h, quand je vais prendre du sous-maximum de 12 km/h, ben, ça va être 10 km/h, par exemple. Je vais pouvoir courir quelques dizaines de minutes ou heures à 10 km/h. Quand je vais prendre du sous-maximal de ma vitesse maximale qui est 20 km/h, ça va être 18-17 km/h. Donc je vais être capable de courir plusieurs heures à 17-18 km/h. Donc on comprend que le sous-maximum de celui qui va courir à 10 km/h pendant 2 heures et celui qui va courir à 17 km/h pendant 2 heures, ça va donner deux performances très différentes parce qu'ils vont avoir couru des distances très différentes. Donc le maximum que l'on est capable de faire, il va décider de notre endurance. Parce que du coup, lorsqu'on fait un effort d'endurance, on est en sous-maximum, mais on est quand même dépendant de notre maximum. Et plus notre maximum est élevé, plus notre sous-maximum va aussi être élevé. Donc ça, notre maximum, c'est typiquement ce que l'on appelle la VO2 max, c'est-à-dire notre capacité à consommer beaucoup d'oxygène sur quelques minutes. Ça, c'est pas cette VO2 max que l'on va utiliser pendant 4 heures d'effort. Par contre, on va utiliser un pourcentage de cette VO2 max, et plus notre VO2 max sera élevé, plus ce pourcentage sous maximum qu'on va utiliser sera lui aussi élevé quand même. Voilà. Donc avoir une grosse VO2 max ou l'équivalent un petit peu, c'est-à-dire avoir une grosse VMA, c'est-à-dire une vitesse de course ou une puissance de pédalage à cette VO2 max élevée. Donc encore une fois, c'est si je suis capable de courir 15 km/h sur quelques minutes, c'est pas cette vitesse-là que je vais prendre sur un marathon, mais ça va être 70-80% de cette vitesse-là. Donc 70-80% de 15 km/h, si c'est 15 km/h, ma VMA, ma vitesse maximum aérobie, ou 70-80% d'une VMA qui est à 20 km/h, ça va donner des performances au marathon très différentes. Donc encore une fois, ce qui va être important pour l'endurance, c'est le maximum, même si on n'est pas au maximum pendant l'effort d'endurance, mais le maximum est important parce que on va être capable de maintenir un effort d'endurance à une fraction de notre maximum, et plus notre maximum est élevé, plus cette fraction du maximum va être aussi élevée. Mais après, le maximum ne va pas tout décider. C'est-à-dire que pour un même maximum, pour deux personnes qui vont avoir une vitesse maximum aérobie, une VMA de 15 km/h, eh bien, on va voir sur le terrain qu'il y en a certains qui vont être capables, pour deux personnes encore une fois, qui ont une VMA à 15 km/h, il y en a certains qui vont être capables de tenir 13 km/h pendant 3 heures, donc une bonne fraction de leur VMA à 15 km/h. Et puis le collègue, lui, sur 3 heures, il va être capable que de tenir 11 km/h, lui 13 km/h, même si sur quelques minutes, tous les deux peuvent courir à 15 km/h. Il y en a un qui va être capable de tenir 3 heures à 13 km/h et l'autre, sur 3 heures, il peut tenir au maximum 11 km/h. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir des capacités différentes à tenir dans le temps une fraction, un pourcentage de notre maximum. Donc plus notre maximum est élevé, plus on a des chances de tenir longtemps un haut pourcentage de ce maximum. Mais plus, même si on a même maximum entre deux personnes, on peut développer des capacités à rester proche de notre maximum longtemps dans le temps, qui sont différentes d'un individu à l'autre. Voilà. Donc ça réfère à quoi? Si le maximum, il réfère à ces concepts de VO2 max, de VMA, etc. Cette capacité à tenir des intensités élevées proches de notre maximum longtemps dans des efforts d'endurance, il réfère plus à ce que l'on appelle les seuils, entre guillemets. Alors, sans rentrer dans les détails, c'est des intensités que l'on peut tenir le plus proche possible de notre VO2 max, mais qu'on peut tenir plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, ces seuils. Donc, encore une fois, quand on est à VO2 max, on peut tenir quelques minutes, c'est tout. Mais quand on est à 80%, 85% ou 75% d'autres, là, on peut tenir plusieurs dizaines de minutes. Et puis quand on est à 50, 60% de notre max, là on peut tenir des heures et des heures. Voilà. Mais je donne des fourchettes, 50, 60%, 70, 85%, parce que selon nos capacités individuelles et selon notre entraînement, on va pouvoir faire jouer ce pourcentage de notre max qu'on va pouvoir tenir longtemps. Et ça va être clé pour l'endurance. C'est notre capacité à tenir un pourcentage de notre consommation maximale d'oxygène très longtemps. Et ça, c'est encore une fois, ça va être modifié par l'entraînement et les qualités individuelles. Donc ça, c'est toute la thématique autour du max et du sous-max. Et puis après, par exemple, en termes de consommation d'oxygène. Et puis après, il y a cette histoire de substrat dont j'ai parlé tout à l'heure, de substrat énergétique. C'est-à-dire que sans consommer du tout de barres énergétiques, etc., notre organisme, il est capable de courir entre 3 quarts d'heure et 1 heure et demie, je dirais, en restant à peu près, en fonctionnant sur ses réserves. Puis au bout d'une heure et demie, 2 heures, là, on va être quand même plus, de manière générale, hein, plus en difficulté. On va avoir épuisé un certain nombre de stocks musculaires, hépatiques, et du coup, on va avoir besoin de s'alimenter. Et là, du coup, il va falloir être capable de s'alimenter, d'apporter à l'organisme de manger, donc, tout en poursuivant un effort, parce que l'effort d'endurance, il est par nature long, et donc il va falloir être capable de s'alimenter tout en courant, alors que c'est par nature, je dirais, pour l'organisme, deux activités qui sont faites pour être séparées. C'est-à-dire que c'est soit notre estomac, nos intestins, ils fonctionnent, et le reste du corps est un peu mis au repos, soit on court, nos muscles qui travaillent, et donc là, il y a toute l'énergie, le sang, etc., qui va aux muscles, et les intestins, ils sont au repos. Et là, sur l'endurance, on va devoir faire les deux à la fois. Donc ça va être un petit peu compliqué. Ça peut être un petit peu compliqué. Ça demande un entraînement aussi. On peut entraîner notre système gastro-intestinal à être capable d'absorber de l'énergie, à s'alimenter tout en courant. C'est nécessaire d'entraîner cela. Et puis au niveau des substrats énergétiques, un autre élément clé, c'est que je l'ai dit au début, c'est que des réserves de sucre dans notre organisme, elles sont quand même malgré tout assez limitées. Par contre, selon nos corpulences, mais même quand on est assez affûté, on a des réserves qui sont là beaucoup plus importantes, voire des fois quasi illimitées, c'est nos réserves de graisse. Et l'énergie pour un effort d'endurance, on peut la produire à partir des sucres, des glucides, mais on peut aussi la produire, cette énergie nécessaire à l'endurance, on peut la produire à partir des graisses. Et ces graisses, il faut être capable de les utiliser. C'est sans entraînement, une personne sédentaire ou peu entraînée, elle va tout de suite se focaliser sur, bien sûr sans s'en rendre compte, sur les glucides, elle va utiliser ses sucres, et elle ne va pas être très capable, elle ne va pas avoir de bonne capacité à préserver ses sucres tout en utilisant plutôt ses graisses. Et l'entraînement, là aussi, s'il est bien réalisé, va pouvoir nous permettre d'être plus apte, plus capable d'utiliser nos lipides, nos graisses corporelles. Et donc, comme ces stocks sont beaucoup plus importants, nos stocks de graisse que nos stocks de glucides, si on est capable de produire pas mal d'énergie en consommant de l'oxygène et nos graisses, les lipides que l'on stocke, on va être capable de tenir des efforts plus prolongés parce qu'on va préserver nos stocks de sucre et consommer nos graisses. Et ça, donc, ça s'entraîne aussi. Et c'est un élément de performance en endurance. Donc, en résumé, il y a nos capacités maximum d'effort sur quelques minutes, notre VO2 max, notre VMA, notre PMA, etc., qui sont importantes. Il y a notre capacité à tenir longtemps une fraction de ce max, de rester longtemps à 70 à 80% de ce max, et ça, c'est typiquement des qualités d'endurance. Et puis, il y a notre capacité à apporter des substrats énergétiques suffisants et à préserver nos stocks de glucides en utilisant nos stocks de lipides qui sont plus volumineux au cours d'un effort prolongé qui vont faire que cet effort d'endurance il va être plus ou moins performant.
Donc ça veut dire que quelqu'un qui se connaîtrait à la perfection pourrait très bien définir à quelle vitesse il doit courir ou il peut courir durant tout un effort sur un ultra et puis être vraiment très précis sur les pourcentages et les temps qu'il va mettre sur certaines distances et portions.
C'est vrai que en faisant certaines évaluations dans des laboratoires comme nous à Grenoble, la médecine du sport, ou dans un laboratoire de physiologie comme l'on a ici, on peut faire un certain nombre de tests qui vont définir à la fois la VO2 max, la VMA sur un tapis roulant, la consommation d'oxygène en mesurant à la bouche les échanges gazeux. Et puis, on va définir des seuils où on va voir que l'organisme à telle intensité, à 80%, à 85% du max, commence à rentrer dans le dur. Donc, nous, on a des indices beaucoup plus objectifs que de dire qu'il rentre dans le dur, mais on va voir que l'organisme, là, il rentre dans une zone un peu plus dans le rouge, qui n'est plus une zone où la personne va être capable, le sportif va être capable de tenir des heures. Donc, on va pouvoir déterminer des niveaux d'effort, de fréquence cardiaque, des vitesses de course à laquelle la personne semble être au-delà d'un certain seuil qui ne va plus lui permettre de tenir des heures. Et donc, on va pouvoir prédire assez précisément, c'est vrai, ce qu'un sportif va être capable de faire, alors d'autant plus, je dirais, sur des types de courses ou d'efforts bien calibrés, comme la course à plat, comme le vélo, parce qu'on a des indicateurs de puissance, etc. Le trail, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a les montées, les descentes, etc. Donc, la vitesse ne veut plus dire grand-chose, mais sur une course à plat, c'est vrai que théoriquement, on peut prédire assez bien des performances sur 20, 40 km, etc., sur la base de tests. Voilà. Mais heureusement, le physiologiste, il n'est quand même pas capable de tout prédire. Voilà. Et après, il va y avoir d'autres facteurs techniques, psychologiques, qui vont rentrer en jeu et qui font que, heureusement, on n'est pas capable de totalement prédire une performance sportive sur la base de tests. Par contre, à l'inverse, on va tester quelqu'un, on va pouvoir tout de suite dire que c'est mal parti pour courir 2h30 au marathon. Parce que, voilà, au bout d'un moment, on ne peut pas non plus. Les remarques classiques, c'est que d'un cheval de trait, on ne fait pas un cheval de course. Donc ça, on le voit vite. On voit vite les catégories de coureurs ou de sportifs que l'on a. Mais après, on a des marges d'affûtage, encore une fois, de facteurs psychologiques, etc., de facteurs techniques qui vont rentrer en jeu et qu'on n'est pas entièrement capable de voir lors de tests en laboratoire.
À t'écouter, quelqu'un qui commencerait un sport d'endurance se dirait... j'ai envie, moi, mon objectif, c'est de courir sur des distances qui vont être assez longues. C'est un objectif que je compte me donner dans quelques années. Il va falloir que je fasse des entraînements VMA, donc typiquement des fractionnés type 30-30, 45-30, des choses comme ça. Mais aussi, donc pour travailler ta VMA, donc ton VO2 max, ta capacité à absorber tout cet oxygène et à la transformer en énergie, mais aussi des sorties longues pour faire travailler les lipides et apprendre à mon corps à puiser dans cette source-là avant d'aller puiser dans les glucides. Mais finalement, comment est-ce qu'on équilibre tout ça? Parce que est-ce qu'on fait plus de l'un, plus de l'autre, moitié-moitié? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être un modèle d'entraînement?
Oui, alors c'est le domaine de l'entraînement et on parle souvent d'art de l'entraînement hein, parce que c'est même au-delà de la connaissance en physiologie. La physiologie, nous, en tant que physiologiste, on donne des bases, des données théoriques précises sur lesquelles on s'appuie ensuite en tant qu'entraîneur. Mais après, il y a une individualisation de l'entraînement pour une personne donnée, pour un objectif donné, qui touche plus à l'art ensuite que à la connaissance scientifique pure. Donc c'est vrai que ce dosage, il est fin. Je dirais que le niveau de zéro de l'entraînement, c'est de se dire, ça serait de se dire de façon quasi caricaturale, je veux courir un marathon, donc je vais courir régulièrement des marathons. Je vais courir des 42 bornes, des 42 bornes, et puis peu à peu, j'arriverai à courir 42 bornes. Ça ne va pas ne pas marcher du tout. Mais c'est vrai qu'il y a des méthodes un peu plus fines où on va se retrouver à faire des séances où on va courir beaucoup plus vite que ce que l'on est capable de faire sur un marathon. C'est-à-dire qu'on va faire quelques minutes, 30 secondes, comme tu dis, d'effort à des vitesses qui sont beaucoup plus élevées que ce qu'on va maintenir au marathon. Mais ça, on va le faire parce qu'on sait que notre maximum, il va compter quand je vais devoir courir mon marathon à intensité sous maximum. Donc, je vais pousser vers le haut mon max pour que mon sous maximum aussi suive cette dynamique. Et puis, ensuite, je vais faire des séances où je vais me dire sous maximum, oui, consommation d'oxygène, de substrat, oui, mais l'énergie, il va falloir être capable de la transformer en vitesse d'avancement. Et si je cours comme une chèvre, je vais consommer énormément d'énergie pour courir à une vitesse donnée, alors que si je suis économe, si j'ai un rendement énergétique, mécanique optimal, je vais progresser. Donc là, je vais faire des séances qui sont un peu décalées par rapport à ma foulée de base sur 42 km, mais je vais travailler ma foulée, je vais travailler de la vitesse pour améliorer mon rendement mécanique. Donc voilà, on va faire des séances un peu décalées par rapport à ce qui est purement ce que je vais faire lors de mon marathon, mais c'est ce qui va nous permettre indirectement de progresser au marathon. Voilà, je vais faire des séances, d'autres séances spécifiques, je vais faire autre chose que de la course à pied, je vais faire du renforcement musculaire, etc. pour avoir un cocktail, je dirais, qui à la fois va me permettre de progresser, de ne pas me blesser et de finalement m'améliorer dans ce qui est mon objectif final du marathon, quoi. Voilà, et ça, c'est l'art, encore une fois, de l'entraînement avec des professionnels qui peuvent nous aider.
Donc, si j'ai bien compris, finalement, l'entraînement, c'est la capacité à faire progresser ses mitochondries en création d'oxygène, d'énergie.
D'un point de vue de la bioénergétique, c'est ça. Mais les facteurs bioénergétiques, ça fait partie des facteurs de performance en endurance. Encore une fois, utiliser de l'oxygène et des substrats énergétiques pour produire pendant longtemps beaucoup d'énergie à destination des muscles, ça, c'est les facteurs bioénergétique de performance de l'endurance, mais ensuite il y a des facteurs biomécaniques, en particulier de rendement du geste, des facteurs neuromusculaires qui permettent de rendre résistant le muscle à la fatigue, des facteurs mentaux, des facteurs techniques, des facteurs, je dirais, comportementaux. Si on se jette sur l'hamburger au ravitaillement, ça va peut-être pas être super adapté. Donc comportemental, c'est bien doser, bien s'alimenter, bien s'hydrater, voilà. Donc c'est la performance sportive, c'est vraiment un cocktail assez unique. Je dirais même que quand on entraîne, moi ça m'est arrivé d'entraîner du haut niveau en ski nordique, et quand on arrive à un athlète qui atteint le très très haut niveau, eh bien on a un peu l'impression, je ne sais pas si tu te rappelles, dans certains Astérix et Obélix où le druide il fait une potion magique et ça explose, on se dit wow, ça a fait un athlète exceptionnel, mais s'il faut le refaire, on n'est pas sûr qu'on y arrivera, d'autant plus que l'athlète il sera différent, les conditions sont différentes. Donc c'est un peu une recette magique des fois que dont on arrive à trouver la composition, mais qui serait un peu unique. Et voilà, il y a un côté dans la performance sportive, et même soi-même quand on réalise une super course, on se dit, wow, attends, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai dormi, qu'est-ce que j'ai bu, comment je me suis entraîné. Et c'est un événement, c'est comme une œuvre d'art, c'est un événement un peu unique qui s'admire, dont il faut profiter, parce que c'est pas facile de la produire et encore plus de la reproduire.
C'est un peu cet état, alors beaucoup disent l'avoir déjà ressenti, je sais pas si tu l'as déjà ressenti, cet état de flow, de bien-être extrême qu'on peut ressentir à un moment complètement improbable en course. Ça peut être après plusieurs dizaines, voire après 100 km, ce qui peut paraître complètement contre-intuitif, en fait, de se dire que je suis dans un état de bien-être extrême. Et ça, c'est vraiment très particulier.
C'est vrai que finalement, ce qui, dans l'entraînement et dans la performance, c'est un élément qui trompe peu, en tout cas qui est important, c'est les sensations. Au final, d'être capable de bien ressentir notre organisme, de bien ressentir où on en est et de se fier à ça, que ce soit l'entraînement ou la performance, c'est important. D'autant plus que si on se connaît. Et d'autant plus quand même si on ne se laisse pas avoir non plus par nos sensations, parce que globalement, elles sont vraiment révélatrices de notre état physiologique. Et il faut, si on se sent fatigué, on doit s'entraîner, je me sens fatigué le matin, c'est pas terrible, c'est pas bon signe, voilà. Donc ça, être attentif à ses sensations, gérer l'intensité de l'entraînement en sensations, tout ça, c'est une approche intéressante. Mais dans l'endurance et dans l'ultra-endurance, c'est vrai qu'on est aussi dans des états je dirais, psychologiques des fois qui peuvent être un peu trompeurs et on peut avoir, ou en tout cas qui peuvent nous faire avoir des comportements qui sont inadaptés du point de vue de la performance, c'est-à-dire que sur de l'ultra-endurance, c'est bien connu que des fois on a des phases où pourtant on a couru 80 bornes, 100 bornes, wow, on se sent super bien, on se dit là ça y est, là je vais accélérer quoi. Et ça, c'est voilà, l'expérience fait qu'en ultra-endurance, quand on se sent pas bien, il faut relativiser, se dire ça va revenir, ça va revenir. Et quand on se sent bien, il faut se dire méfiance, faut pas s'emballer, c'est encore long quoi. Voilà, donc il faut à la fois être attentif à ses sensations et à la fois pas aussi se faire piéger parce que en particulier dans le domaine de l'ultra-endurance, on peut s'emballer ou à l'inverse s'enterrer alors qu'en fait la forme peut d'une certaine manière revenir.
Non, c'est la fameuse phrase si tout va bien, t'inquiète pas, ça va pas durer.
Oui, voilà, là elle est un peu négative comme ça, mais en tout cas, en ultra-endurance, c'est vrai que l'expérience qu'on peut avoir en ultra-endurance, c'est qu'il y a des moments où on n'est pas bien, mais il ne faut pas paniquer, ça va pouvoir revenir si on se réhydrate, si on s'alimente, si on ralentit un peu. Et puis, et de fait, ça revient. Et puis, il y a des moments où on se sent super bien, mais il ne faut pas non plus s'emballer parce que sinon, on se met vite dans le rouge et on le paye ensuite. Donc, c'est là qu'on voit c'est ce qu'on appelle aussi le pacing, c'est-à-dire la régulation du rythme, de l'intensité de l'effort, qui est très fine pour ne pas basculer justement dans des intensités qu'on n'est plus capable de tenir dans le temps, de surmener la machine au-delà de ce que l'on est capable de faire.
Ben ça aussi, c'est tout l'art de connaître son corps et de savoir l'écouter et puis de ne pas s'emballer aux moindres signaux positifs qu'il peut nous donner, de savoir gérer son effort sur la durée. Et ça, il n'y a que l'expérience qui peut nous apprendre à faire ça.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est aussi le bonheur quand on y arrive. C'est-à-dire que quand on se dit « Ah ouais, j'ai fait... 4 heures, 5 heures, 20 heures d'effort et j'ai arrivé à rassembler tous les éléments du puzzle, à doser ça pendant toute la durée de l'effort, à tenir dans ma tête à peu près un équilibre positif. C'est ça qui fait qu'on est content, quelle que soit la performance, d'être finisher, tout simplement.
Et alors, pour tous ceux qui nous écoutent, moi, j'étais très intéressé de faire cet épisode parce que je trouve qu'on comprend tout ce qui se passe dans notre corps et on sait pourquoi on fait les choses et du coup ça nous aide à les faire parce que des fois ça nous gave un peu d'aller faire une séance de 30-30, on préférerait aller faire un footing sur un sentier qui nous fait plaisir, mais malgré tout on comprend du coup pourquoi est-ce que c'est intéressant de le faire. Donc je trouve ça vraiment très intéressant de le savoir en fait, qu'est-ce que ça fait comme effet et pourquoi est-ce qu'on le fait.
Oui, c'est vrai que les sportifs de outdoor, d'ultra-endurance ou d'endurance sont quand même souvent assez curieux du point de vue du fonctionnement de leur organisme et se renseignent, se forment. Nous, à Grenoble, on organise un diplôme universitaire un DU de trail running et on voit qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes de personnes tous azimuts qui viennent se former pour être plus conscients de fait de ce qu'implique leur pratique pour être en meilleure santé, pour être plus performant. Et donc il y a de fait un vrai intérêt qui est une bonne garantie, je dirais, pour être sûrement plus performant et en meilleure santé dans sa pratique de l'endurance et de l'ultra-endurance.
Tout à fait. Bah écoute, merci beaucoup Samuel pour toutes ces précisions et je pense que la bioénergétique sera moins un secret pour tous ceux qui auront écouté cet épisode. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, à bientôt.
Allez, à bientôt.
Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très très bientôt dans un prochain épisode.